déjà, on me dit pas que ça s'appelle une maladie chronique. On me dit pas tout de suite que c'est une maladie incurable.
En vrai, je me dis, bon, en fait, t'as cette maladie, tu peux rien faire. Tu l'as de naissance. Si tu l'as, c'est que tu peux surmonter cette épreuve-là. Et aujourd'hui, des fois, je me dis, quelqu'un vient me voir, il me dit, tu préfères avoir cette maladie ou plus l'avoir, je l'accepte la maladie. Parce qu'en soi, ça fait partie de moi et c'est mon combat.
Un jour, ça peut aller, le lendemain, pas du tout. Et ça a été difficile toute cette période où c'était très fluctuant. Et surtout, pour mon entourage, on ne comprenait pas en fait pourquoi un jour je pouvais aller dire oui pour une balade et un autre jour pas du tout. Et du coup, ça amenait aussi beaucoup de jugements. Non, mais là, tu pourrais te forcer à faire ça. Ou, je comprends pas, aujourd'hui tu tiens. C'est assez difficile. Alors que déjà, à l'intérieur de soi, c'est hyper compliqué à vivre.
Maladie chronique, ce qui nous traverse. Une série d'Alice Le Filleul et Julie Béressy. Premier épisode, être malade. Comme 35% des Françaises et des Français, je vis avec une maladie chronique. Une maladie non transmissible et qui ne se guérit a priori pas, comme le sont le diabète, l'endométriose ou encore la maladie de Crohn. Une maladie chronique, c'est un compagnonnage à vie. Elle est là, avec ses symptômes, ses difficultés parfois, ses imprévus. Elle inquiète, elle fragilise. Et pour cela, elle est difficile à dire. On la délègue au corps médical, à l'hôpital et aux médicaments. Pourtant, il y aurait fort à gagner à questionner ce tabou dans une société qui voit le nombre de ces malades chroniques augmenter constamment. Mais que signifie vivre à vie avec une maladie? Ne pas compter sur la guérison? Quel lien avec les soignants se tisse alors? Comment rester souveraine alors que je me fais grignoter par un mécanisme biologique que je ne comprends pas toujours? La maladie traverse nos corps. Elle nous rappelle que nous sommes avant tout un amas de cellules et des êtres mortels. Elle traverse aussi nos existences sociales et nous oblige parfois violemment à nous redéfinir. Dérouler ce que les maladies chroniques ont à nous raconter, c'est mettre en lumière la vulnérabilité de nos existences, refuser que la bonne santé soit une norme, et accepter qu'à partir du moment où l'on est vivant, on prend le risque d'être malade. Il est important d'ajouter que si cette série aborde les maladies chroniques du corps, celles psychiatriques sont tout aussi importantes. Et même si la médecine les classe différemment, on trouve sûrement plus de points communs que de différences entre nos vécus.
Je m'appelle Agnès. Cette année, je vais faire 68 ans. Je vis dans le quartier de Saint-Antoine, qui est dans les quartiers nord de Marseille. Et donc, je vais dire que j'ai eu deux vies de malade. Une maladie chronique qui, par la force des choses, a fini par s'arrêter. Et une qui est encore au quotidien.
Et c'est lesquelles?
Mais la première, c'est que je me suis affublée d'une endométriose extrêmement sévère. Et je vis avec un diabète maintenant. C'est cool. Je dis adieu à l'une et paf, je tombe dans une autre.
Comment elle a commencé cette endométriose?
Ben alors là, si je le savais, j'étais en formation à Paris. J'étais assise à longueur de journée sur une chaise et derrière une table. Et d'un seul coup, une douleur absolument violente, un truc terrible que je ne comprends pas. Et aucun signe de rien, aucune alerte de rien. Et je demande à des copines, est-ce que vous connaissez une gynéco? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Enfin, qu'est-ce que ça peut être? Et qui m'ont guidée vers la référence gynécologique féministe de Paris, de l'époque. C'était en 1985. Donc, c'est pas d'hier. Et elle n'était pas jeune. Et donc, j'arrive chez elle, j'entre dans son cabinet, je lui explique ma douleur. 5 minutes après, elle me dit... « Madame, vous avez une endométriose. Il faut que vous preniez un rendez-vous avec un chirurgien gynéco en urgence. » Et donc, le rendez-vous devait avoir lieu le vendredi. Le mardi d'avant, la crise d'endométriose. Moi, j'ai vécu toute ma vie après celle-ci, au rythme de ce que mes chirurgiens appelaient la crise d'endométriose. Donc, l'endométriose, c'est... Sur cette version-là, c'est une façon de faire des kystes qui s'accumulent en dehors des voies où le sang peut s'évacuer. donc en dehors du vagin, en dehors de l'utérus, donc ça peut être sur des parois d'intestin, sur des parois d'estomac, etc. Voilà, ça suit le rythme menstruel. Donc en fait, ça s'écoule au moment où ça doit s'écouler, mais il n'y a pas d'orifice de sortie. Donc ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. À la fin, ça finit par faire des poches qui deviennent trop lourdes pour l'organe qui le supporte. Ça se retourne, me disent-ils, ça s'ouvre. Et là, on a 24 heures pour intervenir. Et à ce moment-là, pour moi, c'est ça qui est la crise, parce que la seule chose qui m'annonce que je vais être opéré, c'est que d'un seul coup, ça se met à saigner, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, quel que soit ceci, cela, ça se met à saigner abondamment, et puis surtout une douleur qui m'empêche complètement de bouger.
Je m'appelle Mélanie, j'ai 39 ans, j'habite à Marseille. J'ai des douleurs articulaires aux genoux depuis l'adolescence. J'ai toujours eu mal au corps. Et vraiment, depuis 2020-2021, j'ai eu une sensation très forte de dépérissement. Comme si mon corps se lâchait complètement. Comme si les muscles étaient... Comme s'ils se fondaient. Enfin, il y avait aussi... Ça a commencé un peu, à ce moment-là aussi, des sensations de perte cognitive, en fait. Des fautes d'orthographe que je faisais alors que j'étais excellente avant en orthographe. Des pertes de mémoire. Et là, j'ai plus cette sensation de dépérir, heureusement. Mais là, je me considère malade. Et je suis encore malade. Tout mon quotidien est impacté par ma santé. J'ai des douleurs articulaires dans un genou. Qui aussi m'oblige à marcher en béquille. Donc ça, c'est un peu la part visible de mon état de santé, parce que le reste n'est pas visible. Des grosses douleurs au bras, c'est ma main avec laquelle j'écris, du coup c'est quand même très invalidant. J'ai ce qu'on appelle un SIBO, donc c'est une pullulation bactérienne digestive, du coup qui implique aussi que j'ai dû revoir toute mon alimentation. J'ai aussi des gros maux de tête, et la fatigue chronique. J'ai un diagnostic de encéphalite myalgique. C'est vraiment une sensation de se faire rouler dessus. Tous les jours, quasiment, moi, j'ai cette sensation-là. Du coup, il faut quand même continuer à faire les choses du quotidien tout en ayant cette sensation. Là, j'ai récupéré un peu de faculté cognitive. Du coup, j'ai un peu plus de concentration. Mais je dirais que je ne peux pas avoir une activité de plus de 2 heures. Et encore 2 heures, c'est pas mal. Et je dois systématiquement fractionner mes activités. Par exemple, si j'ai une activité de 2 heures, je dois faire 1 heure de repos.
Docteur Chiche, vous êtes médecin interniste à l'hôpital européen de Marseille. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler des maladies chroniques. Quelle définition donne-t-on aujourd'hui de la maladie chronique ou des maladies chroniques ?
Disons que je pense que dans l'inconscient collectif... La maladie chronique, elle va s'opposer à des petites maladies qu'on appelle intercurrentes, qui sont des infections banales, crises d'allergie pas trop répétées. Donc la chronicité, ça va être caractérisé par la répétition, voire par un état qui ne va pas s'interrompre sous réserve qu'on ait initié un traitement pour empêcher les symptômes de survenir.
Mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des causes des maladies chroniques ?
Alors là, vraiment, on aborde peut-être le sujet le plus complexe au niveau scientifique. Il y a des facteurs identifiés comme des facteurs modifiables, le surpoids, l'absence de sport, la consommation de tabac, etc. Mais effectivement, la phrase bateau est toujours vraie, un mélange de nos gènes et de notre environnement, que les scientifiques appellent l'exposome, c'est-à-dire tout ce à quoi on va être exposé individuellement ou collectivement, depuis la naissance et même probablement in utero.
Une des questions qui revient souvent, c'est pourquoi je tombe malade ?
Alors, c'est une question sur laquelle, en tant que médecin, on ne peut pas prétendre, je pense, avoir la réponse. Et c'est quelque chose qui, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de communiquer à nos patients individuellement. Par contre, on peut essayer d'approcher une forme de réponse et peut-être aussi découper cette question. Par exemple, pourquoi je tombe malade ? Ça pourrait être aussi pourquoi je tombe malade à ce moment de ma vie. Et là, bien sûr, on peut essayer de resserrer un peu les choses en revenant sur l'exposome. Dans les années précédant les premiers symptômes, est-ce qu'il y a eu telle ou telle exposition, tel ou tel stress au sens large, hein, physique, psychique et social? Et bien sûr, on a des données maintenant sur une discipline qui s'appelle l'épigénétique, qui commence à nous donner des informations sur le fait que l'exposome du tout début, in utero, commence à peut-être préparer, prédisposer à certains types de pathologies.
En fait, j'ai eu une maladie auto-immune sur un genou. À 20 ans et à 27-28 ans, je me suis fait opérer de cette maladie auto-immune, qui est maintenant en dormance, mais quand sont apparues les douleurs sur l'autre genou, moi-même, je me suis un peu orientée en me disant « ça doit être cette maladie qui est arrivée sur l'autre genou et tout ». Du coup, en 2020-2021, je commence plutôt à essayer de traiter ces douleurs de genou. Je suis allée voir des chirurgiens, tout ça, et ce qu'on m'a dit, c'est « on vous prescrit 15 séances de kiné et ça ira mieux ». J'ai beaucoup parlé aussi de la fatigue, mais pareil, on me disait « il faut dormir plus tôt ». Il faut se coucher plus tôt. Les pertes de mémoire, il y a même un médecin qui m'a dit qu'il faut manger du poisson. C'était jamais vraiment très pris au sérieux. Et même, il y a des médecins qui m'ont dit « Bon, là, on va se pencher sur la douleur qui est la plus invalidante ou qui fait le plus mal. » Du coup, par exemple, pour les maux de tête, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à en parler parce que bon, bah, quand il fallait que je choisisse, et bah, c'était plutôt le genou parce que ça venait invalider la marche. Donc c'est ça qui me gênait le plus. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un médecin traitant, mais qui a pris le temps, on a été plus de 40 minutes ensemble. Il m'a posé plein de questions sur ma vie sociale, professionnelle, sur les symptômes. Et en fait, il m'a prescrit des analyses de sang. Et de là est sorti un diagnostic de maladie de Lyme, un Lyme chronique pour le coup. Et donc, il m'a mis sous antibio. Et ce diagnostic, il a été à la fois angoissant et il m'a quand même mise dans une sensation d'euphorie très forte. Parce qu'enfin, on reconnaissait à un endroit que j'étais malade. Ça a rendu réel tous les symptômes, en fait. Je sais pas, il y a eu un avant-après.
On pourrait penser que le premier moment traumatique, c'est les symptômes, les premiers symptômes. Et en fait, justement, très souvent, le moment traumatique, c'est quand les symptômes sont accompagnés du fait qu'on a prononcer le mot de maladie chronique et que la personne commence à entrevoir la chronicité qui justement s'oppose à ces fameuses maladies qui passent rapidement comme une grippe ou autre. Là non, c'est parti pour durer, il va falloir vraiment se réinventer et ça, clairement, c'est un premier trauma. Alors le trauma, c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose de négatif parce que ça déstructure, c'est une évidence, mais ça peut être justement, si on arrive à accompagner la transformation, quelque chose de restructurant. Quand l'alliance thérapeutique se met en place, parce que l'annonce est réussie, une annonce réussie, ça ne veut pas dire qu'elle est facile, mais ça veut dire qu'on a réussi à trouver le rythme du patient, on a réussi à lui passer des informations importantes en allant à son rythme, en le faisant reformuler, et finalement, il trouve qu'en fait, avec ces informations-là, il va pouvoir avoir une perspective d'avenir, et au contraire, ça ne vient pas juste l'écraser par un tas d'informations qui seraient débitées de façon un peu machinale. Donc quand l'annonce est réussie, en fait, ça engage une relation thérapeutique qui est beaucoup plus intéressante.
La déconstruction est le principe dissimulé de mon fonctionnement biologique. Depuis que le diagnostic a été posé, tout est redéfini par l'urgence d'une vie à contre-courant. Se déconstruire constamment, ne s'appuyer sur rien. Aucun fondement stable. Une épreuve du doute sans cesse renouvelée. Remettre incessamment en jeu celui qu'on est. Ne croire en rien d'indestructible, rien d'éternel. Pas de corps comme support, pas de port d'attache, pas d'appui. Se méfier, et surtout de soi. Claire Marin, hors de moi. Claire Marin, vous êtes philosophe. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de parler de la maladie ?
Parce qu'elle inquiète, elle fragilise, parce qu'elle rend les choses incertaines, et que c'est exactement l'inverse de ce qu'on aime faire, c'est-à-dire programmer, planifier, organiser à l'avance. Et parce qu'elle fragilise tout, le rapport au travail, les liens affectifs et plus profondément l'identité du malade lui-même. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, on est tenté de l'évacuer ou de la mettre entre parenthèses.
C'est qui ce « on » ?
Ce « on », c'est à la fois le malade, quand il est dans des phases de son existence où il peut se donner l'impression qu'il ne l'est plus ou qu'il l'est beaucoup moins. Mais c'est aussi les proches, les collègues, les voisins, les amis, tous ceux que ça concerne, puisqu'on pourrait dire que c'est un peu quelque chose qui irradie tout autour du malade, comme un point sismique qui va avoir des répliques à différents niveaux. Et ça irradie au sens où ça partage ou communique une inquiétude pour le malade et pour soi dans un effet miroir. ça bouscule les organisations en place, ça ralentit les rythmes de travail, de vie commune, ça bouleverse en fait tous les tissus, tous les liens qu'on ne voit pas nécessairement et qui apparaissent en négatif, puisque parfois ils disparaissent plus exactement.
Du coup, je me présente, je m'appelle Adja Traoré, j'ai 18 ans, j'habite à Villeneuve-la-Garenne dans le 92. J'ai une maladie chronique. Le nom de la maladie, c'est la dyskinésie ciliaire cognitive. On ne connaît pas vraiment cette maladie, mais elle est rare. C'est une maladie pulmonaire. Dans nos poumons, on a des cils. Et du coup, ces cils-là, ils permettent de dégager toutes les sécrétions et tout ça. Et moi, mes cils, elles ne fonctionnent pas. Du coup, ça fait que j'accumule des sécrétions et j'attrape des microbes et tout ça. Je suis gênée pour respirer. J'ai le nez qui coule souvent. Je crache beaucoup aussi. Et du coup, j'attrape comme des microbes des fois. Ça fait que des fois, je suis souvent hospitalisée aussi.
Vous êtes malade de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être malade de naissance ?
J'ai toujours grandi avec cette maladie. Quand ma mère elle a accouché, on m'a transférée directement parce que ils ont vu que j'avais des problèmes pour respirer. Ça fait que même ma mère elle m'a pas vue directement. Ils m'ont transférée directement à l'hôpital Robert Debré. Ça fait que je suis restée 2 mois à l'hôpital, qui est mon hôpital actuellement depuis 18 ans du coup. J'ai souvent des rendez-vous à l'hôpital. J'ai manqué beaucoup, beaucoup de cours depuis que je suis petite. J'ai même redoublé à cause de ça, du coup, parce que les allers-retours à l'hôpital, c'était environ tous les 2 semaines, 2 mois, tout le temps.
Et ça vous faisait quoi ? C'était comment, psychologiquement ?
J'étais petite en vrai, mais c'était lourd. Franchement, c'était lourd. C'était relou, quoi. Le truc qui m'a aussi marqué, c'était mon redoublement. En fait, c'est là où je voyais tous mes camarades partir dans l'autre classe et moi j'étais restée dans le même niveau, ça m'a tuée en fait. Pourquoi moi j'ai ça et les autres ils l'ont pas? Même mes parents, des allers-retours à l'hôpital, c'était compliqué pour eux aussi. Me déposer au kiné tout le temps, me faire mes traitements. Je pense que eux ça les a vraiment plus touchés que moi ça me touche en vrai.
On ne peut pas considérer un patient qui rentre dans la maladie comme une machine malade au niveau physiologique, indépendamment de la sphère psychologique et sociale. Et quand on parlait alors d'exposome, d'exposition de l'environnement du patient, en fait, qui conditionne et la survenue de sa maladie parfois, et même l'intensité de celle-là et sa résolution, on voit bien qu'on ne peut pas comprendre la trajectoire de nos patients si on n'a pas ces 3 aspects qui sont explorés au même niveau. Alors par exemple, un patient qui va développer une maladie auto-immune sur le plan de la biologie, son système immunitaire attaque une partie de ce qu'on appelle le soi, au niveau d'un organe ou de plusieurs organes. Ça, c'est la partie biologique. La partie psychologique, c'est le vécu psychologique non seulement de cette pathologie, mais bien sûr aussi le vécu psychologique les années avant l'émergence de la maladie, avec tout ce qu'on peut savoir maintenant sur l'impact de certains stress de vie, ce qu'on appelle des événements de vie, à plus ou moins forte intensité, et dont on sait qu'ils peuvent favoriser l'émergence d'une pathologie, non pas juste sur le moment, mais des fois une dizaine d'années après. Et puis, l'aspect social est très important puisqu'il a été montré dans des expériences chez l'homme et bien sûr dans des modèles aussi animaux qu'un stress social, je prends cette expérience qui a été faite il y a quelques années chez des macaques qui sont des animaux sociaux et où le simple fait de changer la hiérarchie dans un groupe, passer du haut de la pyramide en bas ou à l'inverse, passer du bas en haut, a généré chez ces macaques en fait des réponses inflammatoires et immunitaires qui sont celles qu'on voit dans nos maladies auto-immunes. Donc voilà, ces 3 paramètres, bio, psycho et social, en fait, ils caractérisent toute personne qui vit. Et l'idée, c'est de ne pas analyser la situation sans avoir ces 3 prismes d'interprétation.
Claire Marin, dans votre texte « Violence de la vie, violence de la maladie », vous écrivez cette phrase « La maladie suspend le sujet ». J'ai trouvé que dans cette image de la suspension, il y avait quelque chose d'extrêmement juste, enfin, qui en tout cas, moi, me parlait beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Il y a un effet de freeze au sens anglais, on est un peu glacé, figé, Mais suspendu, il y a quelque chose en plus, c'est qu'on peut tomber, en fait. Et c'est cet entre-deux, d'être arrêté, de dépendre des autres qui nous tiennent, et de ne pas savoir comment on va retomber, à quel endroit, de sa vie, de ses espoirs ou de ses ambitions. Donc il y a quelque chose à la fois, paradoxalement, de presque un peu grisant, alors je le dis avec plein de guillemets, mais le fait que l'ensemble des obligations, des responsabilités, etc., soient suspendues, à certains moments de vie, c'est presque agréable. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de la maladie, mais il y a quelque chose dans cette suspension qui... Je dis ça parce qu'on s'en souvient après. On se souvient qu'à certains moments, on a été capable de s'extraire de choses qui, au quotidien, nous semblent tellement importantes, tellement urgentes. Et c'est en ça que la maladie nous apprend un peu quelque chose. Mais évidemment, 99% de cette expérience, on préférerait s'en passer. Enfin, en tout cas, moi, si on me donnait le choix de ne pas être malade ou être malade, je ne me pose pas la question longtemps. Mais... il y a quand même cette idée-là que on est prélevé du quotidien, enfin, ou extrait du quotidien, et qu'il y a certaines choses qu'on voit peut-être plus clairement.
Chaque fois, ensuite, qu'il y a une crise, je suis un petit peu plus familiarisée avec la maladie, etc. Et puis surtout avec la récurrence des crises, grosso modo, une fois tous les deux ans. Donc c'est énorme. Et chaque fois, on m'a dit, là, on vous fait cette intervention, et après c'est fini. Et chaque fois, j'y ai cru. Et donc chaque fois que ça réarrivait, c'était, oh zut, mais c'est pas possible, encore quoi. À chaque fois, surprise.
Combien de crises est-ce que vous avez eues ?
Mais j'ai eu 17 interventions chirurgicales sur le ventre. Donc 8, ce qu'on appelle des laparos, ça veut dire donc des ouvertures totales, hein, et le reste en cœlio. Et la cœlioscopie, en fait, c'est lorsqu'on nous fait juste des toutes petites entailles sur les flancs, comme ça, on rentre à la fois par ces petites entailles un microscope et des pinces. Et une crise arrive le 1er janvier de l'année de mes 40 ans. Donc pendant le réveillon, quoi, le 31 décembre, bing bing, hôpital, urgence, etc. Et là, donc le chirurgien qui me reçoit dans un hôpital en urgence me dit « Ah, puisque vous avez 40 ans, on va pouvoir vous enlever l'utérus. Et après, c'est fini cette maladie. » Je dis « Attendez. Vous me dites qu'il faut enlever l'utérus et la maladie est finie, et vous attendez que j'ai 40 ans pour me proposer ça. Je galère depuis que j'ai 28 ans. Ah oui, mais avant 40 ans, on n'a pas le droit. » Ça a été ça, le problème que j'ai eu avec le premier chirurgien, qui m'a fait un scandale parce qu'il fallait absolument que j'accepte de faire un enfant pour être soigné, parce que si on fait un enfant, on a beaucoup de chances d'être guéri de l'endométriose. Et lorsque j'ai dit à ce médecin, après un an de réflexion, non, je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas que l'enfant soit un médicament, ou alors il faut que la Sécu me le rembourse. Donc je n'aurai pas d'enfant, je décide de ne pas en faire. Et je dis ça depuis que j'ai 29 ans. Et on me dit, ah oui, mais jusqu'à 40 ans, vous n'auriez pas changé d'avis. Je dis, mais chaque fois que je me suis fait opérer, chaque fois, on m'a posé la question. Bon, donc il me fait cette opération. Il m'enlève l'utérus. Et ça continue. 2 ans après, paf, de nouveau crise. Je retombe sur le même chirurgien. Et qui me dit, ah ben, on va pouvoir enlever les ovaires. Je dis, oh, maintenant, dans le fond, vous faites ce que vous voulez. Parce que moi, j'y comprends plus rien. Chaque fois, on me dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et puis, ça ne l'est jamais. Effectivement, on m'enlève les ovaires. 2 ans après, paf.
L'impact, il est multiple. Déjà, il est sur la question professionnelle, parce que du coup, je ne travaille plus depuis un peu plus de 3 ans. Elle est du coup financière, parce qu'en fait, ça m'a précarisée à fond. J'ai de la chance d'avoir des parents qui peuvent me soutenir financièrement, mais ça crée de la dépendance, c'est pas rien. C'est une chance et à la fois ça crée une dépendance. Elle est affective parce que du coup, la question de l'amour, elle est pas. Enfin, j'ai autre chose à faire que de me laisser aller à ces choses-là. Elle a un impact aussi sur mes relations amicales parce que il y a des personnes de mon entourage qui n'ont pas compris ce que je vivais. Et sans doute que des fois j'ai pris trop de place avec ça et que du coup il y a eu des dommages collatéraux, donc il y a eu des ruptures amicales. Elle est sociale parce qu'en fait il y a des jours où je sors pas de chez moi en me disant là je suis pas assez en force pour rencontrer le monde extérieur, parce que si le monde extérieur est violent et dur et rude aujourd'hui, je vais pas pouvoir faire face. Du coup elle a créé beaucoup d'isolement. Moi, je suis une autre personne que celle que j'étais avant d'être malade. J'ai perdu de la spontanéité, j'ai perdu de la légèreté, des endroits d'humour. Des fois, je me suis aussi empêchée de tourner en rond dans ma tête cette question-là de « je suis malade, je suis malade, je suis malade ». Je m'endormais en disant « je suis malade, je suis en train de... » On me grignote de l'intérieur, gna gna gna. En fait, tout est impacté. La maladie s'immisce dans tous les pores de mon corps. Dans mon corps social, dans mon corps... Et du coup, c'est compliqué pour moi de me dire « Non, mais il y a Mélanie qui est malade et il y a l'autre Mélanie ». On peut faire ça quand on a un travail. On peut dire « Là, il y a Mélanie professionnelle, à 17h, c'est fini. » Mais Mélanie malade, elle est tout le temps. Et du coup, je ne peux pas avoir ça autrement. Après, parfois, ça prend moins de place que d'autres.
Il existe assez peu de discours, ou en tout cas assez peu de représentations sur le fait que la maladie, ce n'est pas qu'un mauvais état de santé, un rapport à des médecins, des médicaments, mais c'est avant tout une inscription dans un ordre social qui se déplace.
Ça, c'est une bonne question. Il y a quand même quelques réponses dans le type de société dans lequel on vit. C'est très caricatural, mais il faut être performant, il faut être dynamique, il faut manifester quelque chose comme de la puissance malgré tout, de la capacité. Et la maladie, elle est toujours renvoyée du côté de l'impuissance, de ce qui nous ralentit, nous handicape, etc. Donc elle est incompatible avec le système de société dans lequel on se trouve. Et ce d'autant plus qu'il nous demande d'assurer cette dimension un peu performative sur tous les plans, personnels, professionnels, sociopolitiques. Et aucun de ces endroits de nos vies démultipliées n'est un endroit qui accueille la fragilité à bras ouverts. Donc, partout ce que la maladie représente, elle n'est pas la bienvenue. C'est sûr qu'il y a quelque chose comme un ralentissement ou une cassure. Et puis, on peut avoir du mal, effectivement, à aller aussi facilement à certains endroits des relations sociales. Et puis, on peut ne plus du tout avoir envie d'y aller. Et en ce sens, il y a aussi des espèces de terres brûlées sur notre cartographie, soit parce qu'on ne peut plus y aller, parce qu'il y a aussi des choses qu'on perd définitivement. C'est pas juste l'expérience d'être malade et puis de revenir à la normale. On peut recréer une forme de normalité, mais il y a la plupart du temps des choses qui sont définitivement perdues, que ce soit des espoirs, des ambitions, des représentations, ou que ce soit des vraies possibilités ou des capacités. Il est possible qu'on ne puisse reprendre qu'à mi-temps, il est possible qu'on ne puisse pas reprendre le même travail. On perd des amis, on perd des conjoints, surtout si on est une femme. On connaît les statistiques. Les femmes malades sont assez massivement abandonnées par leurs conjoints, alors qu'à l'inverse, les statistiques sont strictement inverses en termes de pourcentage. Donc il y a quand même quelque chose de perdu. Et il y a aussi peut-être le refus de reprendre le rythme qui nous paraissait fluide, mais dont on a compris par qui il était imposé, au nom de quoi, dans quelle logique. Il n'est pas sûr qu'on veuille rejouer le jeu de la même manière après la maladie. Même si, je sais très bien en lisant à quel point il est difficile d'imposer une forme de ralentissement quand on commence à être à aller mieux. C'est aussi grisant de se dire « Ah, mais je peux supporter cette vitesse ». Là où pourtant, on a fait l'expérience qui nous permet de savoir que cette vitesse n'est pas nécessaire, voire qu'elle est même assez vaine dans certains cas.
C'est lourd des fois. Parce que même si on accepte ou quoi, même si ça fait partie de nous, des fois, c'est pesant. Les allers-retours à l'hôpital et tout, ça devient chiant. Mais il faut s'accrocher, parce qu'en vrai de vrai, bah, c'est une maladie chronique, c'est à vie. On apprend à vivre avec. Moi, je vis ma vie. Hein. Franchement, c'est pas un frein, en vrai, pour moi.
Comment ça se passe? Est-ce que vous en parlez autour de vous?
Non. Non, j'en parle pas. J'en parle pas parce qu'en fait, des fois, les gens... Soit on leur fait pitié ou quoi, et moi, c'est pas ce que j'ai envie, en fait.
Et comment vous vous sentez par rapport aux autres personnes de votre âge?
Je me sens en vrai comme eux. Hein. Moi, je me sens comme eux, mais je suis pas comme eux. Moi, j'ai un poids en plus qu'eux, ils ont pas. À l'école, c'est un peu plus compliqué, parce que, par exemple, les professeurs, ils ont plus de la pitié ou quoi, ou... Exemple, quand l'infirmière elle vient me prendre mes traitements, les autres ils me regardent avec de la pitié. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie, en fait. Par exemple, je me rappelle un jour, j'étais en cours et tout, avec ma prof, tout se passe bien avec elle de base. Et j'étais tout devant et on est beaucoup dans ma classe. Et en fait, bah, tout le monde parlait et tout. Et en fait, j'expliquais l'exercice à mon camarade. Et la prof elle s'est retournée, elle m'a crié sur moi. Et moi, j'ai trouvé ça injuste parce que c'était pas moi le problème, en gros. Elle m'a virée. Du coup, enfin, moi aussi, je me suis un peu énervée avec la prof. Elle m'a sortie de la classe. Et du coup, la CPE, nous avait entendu. Et moi, j'avais dit, c'est bon, je suis fatiguée et tout ça. Elle a juste entendu, je suis fatiguée. Elle a appelé l'infirmière, elle a dit, oui, il faut que les profs prennent en compte qu'elle est malade, qu'elle est fatiguée. À un moment donné, j'ai dit, madame, stop. J'ai fait une bêtise, là, jugez-moi sur la bêtise, pas sur la maladie. Et même quand je vais faire une bêtise, ben, je vais mettre la maladie dedans, en fait. Mais sinon, ce que j'aime bien avec ma famille, ils ont la Hadja pas malade en tête. Ils ont juste la Hadja malade quand elle est à l'hôpital. Et c'est ça qui fait qu'en vrai, j'accepte la maladie. Parce que quand je suis chez moi, c'est pas oui, les médicaments. Enfin, ma mère, oui, ouais, tu dois prendre tes médicaments, enfin, c'est chiant et tout. Mais sinon. Chez moi, je me sens bien. Avec ma famille, je me sens super bien.
C'est quoi les autres endroits où vous vous sentez bien?
Dans les centres thérapeutiques. Avec, justement, avec des enfants malades. Avec eux, j'ai une sensation incroyable. On est tous malades et on vit ensemble. Et en fait, ça ne nous choque pas. On n'a pas la pitié entre nous. Ça ne nous choque pas de quand il y en a une qui fait une crise ou quand il y en a une qui appelle l'infirmière à gauche, à droite. Et je me dis, ah ouais, il est comme moi. On est pareil. On vit la même chose. Et c'est ça qui est bien, en fait.
Le discours de la maladie est presque toujours négatif. Discours de la restriction et du renoncement, il rappelle ce que l'on ne doit pas faire. Mais la maladie réveille aussi une sensibilité qui s'était endormie. Tout devient plus émouvant. Elle introduit un nouveau rythme, non pas comme on pourrait le croire, le rythme lent de ceux dont le corps est freiné par les douleurs. Mais au contraire, elle accélère l'existence. Elle contraint à une philosophie de l'instant présent qui doit être intense, fort et sans concession. Elle impose à notre vie le mode de présence de la douleur vive. Amplifier les sensations, précipiter les rapports aux autres, ne pas s'attarder. La maladie exalte et excite. Tout devient plus violent, le cœur bat trop fort. Elle nous plonge dans le vif de la vie, dans sa démesure. Cette caractéristique du vivant est négligée par le discours clinique au seul objectif de la guérison. C'est réduire cette expérience. Alors que sans aucun doute, elle est l'expérience d'un autre pan de l'existence. Claire Marin,
hors de moi.
Il y a une dizaine d'années, je parlais d'endométriose comme ça, à l'occasion, et les femmes me regardaient de gros yeux en disant « Mais je n'ai jamais entendu ce mot-là. » Et je peux le situer à il y a 10 ans. Vraiment. Et maintenant que j'entre dans ma vieillesse, etc., etc., quoi, je perçois la maladie différemment, puisqu'ils s'en parlent différemment.
Qu'est-ce que ça aurait changé que cette maladie-là, elle soit connue pour vous, dans votre jeunesse ?
Ça m'aurait permis d'être plus crédible par rapport à mes employeurs, qui pensaient vraiment que je faisais du tir au flanc. Or, voilà quoi, hein, quand on s'est fait couper le ventre en deux, on met quand même un mois à se remettre debout, position debout. Donc sans parler vraiment de travailler, etc. quoi, hein, pour pouvoir marcher. Donc voilà, bon, ça m'aurait permis ça, déjà. Ça m'aurait peut-être permis de m'écouter, aussi. Puisque, voilà, moi j'ai voulu traverser ça dans le déni. En fait, dans un déni, quoi. C'est-à-dire au point d'arriver à l'arrivée comme ça, au seuil d'une nouvelle crise, et chaque fois d'être surprise. Voilà. Mais de toute façon, après, en termes de soins médicaux, ça n'aurait rien changé. On m'aurait de toute façon proposé la même chose. Et il y aurait eu le même déroulement, même si j'avais pu en parler. Donc, voilà, quoi. Chaque fois, j'étais opérée. Je mettais des mois pour m'en remettre et je croisais les doigts en me disant « Inch'Allah, c'est terminé ».
Quand on parle des maladies chroniques et de leur vécu, mais aussi de leur reconnaissance, on dit qu'il y a deux types de reconnaissance. La reconnaissance sociale, d'une part, et la reconnaissance médicale, d'autre part. Qu'est-ce que c'est que ces deux reconnaissances ?
Ben en fait, il y a deux cas de figure. Soit il y a un alignement. La société et la médecine reconnaissent une maladie. Bon, exemple, le cancer. C'est une maladie qui est quand même compliquée. Quand on l'annonce, même quand elle se soigne mieux maintenant, elle ramène une symbolique assez mortifère depuis la nuit des temps. Mais clairement, au niveau de la société et des médecins, personne n'ira remettre en cause un diagnostic de cancer ou sa réalité. Donc personne ne va discuter là-dessus. Donc dans cette difficulté qui est d'avoir cette maladie grave, en fait, au moins une difficulté qui est enlevée, c'est la reconnaissance médicale et sociale. Par contre, il y a d'autres maladies où il n'y a pas d'alignement. C'est-à-dire, par exemple, que la médecine commence à reconnaître une entité. Je prends l'exemple de l'endométriose, parce que c'est clairement une actualité et ça concerne un nombre impressionnant de personnes. Bon, ça fait partie des maladies où la médecine commence à le reconnaître, mais la société a eu des fois un temps d'avance sur le corps médical. On a eu un peu ces discussions sur les états de Covid longs, qui sont en fait des états de fatigue extrêmement importants, qu'on peut voir après d'autres virus que le Covid. Mais disons, pour ces états de fatigue post-viraux, effectivement, c'est une réalité sociale. Et pourtant, le corps médical, des fois, a un temps de latence si des choses ne sont pas palpables, comme sur une biopsie pour un cancer. Donc vraiment, cette discordance entre le médical et le social, elle est fondamentale parce que vous pouvez expliquer à votre patient ce qu'il a, lui donner un traitement. Si la société ou si même au niveau de la famille, il ne peut pas expliquer ce qu'il a facilement, en vérité, c'est la double peine parce qu'en fait, il ne pourra pas expliquer aux autres pourquoi il va rater le travail, pourquoi il pourra être moins présent pendant un certain temps auprès de sa famille, etc.
Et dans le social, il y a aussi l'aspect administratif.
Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer cet aspect ?
Par exemple, quand on a une maladie chronique, on a une forme de reconnaissance qui s'appelle l'affection à longue durée, avec des maladies pour lesquelles il y a un numéro adapté, pour d'autres, c'est regroupé. Et puis pour des maladies, ça va dépendre d'une expertise par des médecins particuliers qui, des fois, selon les régions, selon les périodes, selon du coup des facteurs complètement subjectifs, vont dire par exemple que la fibromyalgie n'est pas un véritable état médical. Donc la fibromyalgie, vous savez, c'est une pathologie douloureuse chronique qu'on rencontre chez quasiment un tiers à la moitié de nos patients qui ont des maladies auto-immunes. Quand un patient a une maladie auto-immune et une fibromyalgie, bon bah, la maladie auto-immune reconnue permet cette reconnaissance. Mais pour les patients qui ont entre guillemets seulement le syndrome fibromyalgique, bah là c'est compliqué. Il y a des centres antidouleurs qui vont reconnaître pendant la maladie, qui sont même experts dans leur traitement, mais au niveau social et au niveau de cette expertise administrative, il peut y avoir un refus, donc un déni de la société de la souffrance qu'a la personne.
Et de quelle façon est-ce que le fait que les maladies soient invisibles, ça redouble ce déni ?
Ben c'est ça. En fait, on est dans une société de ce qui apparaît, du visible. Et donc ça, c'est un biais aussi scientifique. Hein. Quand on ne voit pas, on ne croit pas. C'était le cas pour les infections qu'on ne voyait pas avant. Maintenant qu'on les voit, il y a une pathologie, un pathogène, on sait qu'elle y est. Mais par exemple, pour un état de fatigue après une infection, on n'a pas trouvé de virus. Il n'est plus là. La fatigue est réelle. C'est un symptôme subjectif. Donc soit on croit son patient c'est le rôle du médecin. Mais pour l'expertise administrative, effectivement, tant qu'il n'y a pas quelque chose de tangible, de mesurable, on n'y croit pas. Là, le patient est au clair avec sa pathologie, il en souffre. Et là, cette fois, c'est l'extérieur, la société, les autres, qui ne reconnaissent pas ce qu'il a. Mais effectivement, c'est en soi une cause de maladie et de conséquences mentales et physiques majeures. Donc c'est très dommageable. Et d'un autre côté, ça serait bien aussi qu'on évolue en acceptant qu'une souffrance peut des fois ne pas être mesurable autrement que par le biais subjectif et que de toute façon, la réalité psychique, c'est la réalité du patient.
Séance d'éducation thérapeutique, Hôpital Européen, Marseille.
Allez, c'est parti. On commence par un petit tour de table.
Je vais te présenter l'atelier. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Andrea, je suis infirmier en éducation thérapeutique à l'Hôpital Européen. L'atelier d'aujourd'hui, c'est sur les traitements, donc les traitements immunologiques en cas de maladie auto-immune. L'atelier dure 2 heures. C'est sous forme de jeu. Donc, il y a 4 équipes. Chacun tirera le dé suivant les questions. Les bleus sont sur des connaissances, les verts sur témoignages. Donc, il n'y a pas de questions bêtes. S'il y a des questions que vous ne comprenez pas bien là-dedans, on en discute. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris ?
Oui.
Allez, go. Alors, petit tour de table pour se présenter brièvement. Et comme ça, on attaque après.
Bonjour, moi je m'appelle Farida, j'ai 54 ans et j'ai une spondylarthrite ankylosante.
Bonjour, je m'appelle Vera et j'ai une RCH depuis une vingtaine d'années.
Donc l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui est malheureusement pas assez connu, même si ça fait quand même maintenant un sacré moment que les centres médicaux ou les médecins essaient de le proposer. Il s'agit de à la fois transmettre des informations aux patients et le faire dans un cadre qui n'est pas celui justement de la consultation. Alors pour plein de raisons, ça permet d'avoir des fois aussi des séances qu'on appelle des séances de groupe, où les patients vont rencontrer d'autres patients qui ont des maladies chroniques identiques ou disons de la même famille. Et ce dialogue-là, il n'a pas de prix pour intégrer des informations quand elles viennent de la part d'un père. Et la deuxième chose, c'est que ça permet d'aborder vraiment des choses sur un temps beaucoup plus long et beaucoup plus intéressant que la consultation qui est bien sûr contrainte de façon logique, sur des aspects de comment vivre avec la maladie. En allant de l'alimentation, l'activité physique, la façon d'annoncer la maladie à ses proches, le fait de gérer ça au niveau du travail, tous les aspects pratiques. Et ça diminue en fait tout simplement le recours aux soins en urgence ou des complications même des fois, parce que je peux prendre un exemple sur une hésitation vaccinale, notre parole va être un peu trop paternaliste, peut-être trop contraignante. Et la même proposition faite par un infirmier d'éducation thérapeutique, des fois, va passer de façon beaucoup plus intéressante. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre patient soit protégé de l'infection qu'il menace parce qu'il prend un traitement immunosuppresseur. Et donc, au bout du compte, ça fonctionne.
Donc, on peut faire des équipes, si vous voulez. On fait 4 équipes, si vous voulez. Après, on se met dans l'équipe aussi. Hein. Vous n'allez pas vous en tirer aussi facilement que ça. Allez, go.
Moi, je préfère avoir le jeune.
Tu préfères le jeune.
Je vais
le
mettre avec Nadia, si elle veut bien.
Allez, oui. Go. Allez, Nadia, tire le dé.
5.
Donc, jeune. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Témoignage.
Avez-vous mis en place des moyens pour ne pas oublier la prise de vos traitements ? On peut mettre un rappel sur le téléphone. Mmh. On peut mettre à heure fixe pour ne pas oublier. Alors, moi, jusqu'à présent, j'avais des injections de Humira. Ouais. Donc, c'était tous les 15 jours, donc je ne pouvais pas oublier. J'ai eu le Fivaza et ça m'arrivait d'oublier régulièrement jusqu'à ce que je prenne un pilulier parce que j'avais plusieurs traitements.
Moi, c'est une fois tous les mois, donc sur téléphone pour que ça me rappelle.
C'est le téléphone qui rappelle.
Oui.
De toute façon, quand on oublie, on se rappelle à nous tout seul.
Donc, dans le sens, les symptômes reviennent.
Ah, ben, les symptômes reviennent parce que moi, j'ai différentes pathologies. Donc, tout ce qui est anti-TNF, comme c'est ici, ben, il n'y a pas de souci. On nous appelle, on nous prévient, on ne peut pas oublier. Après, les cacher à la maison, si on oublie au bout d'un moment.
Alors, ce que vous dites est à la fois vrai et à la fois, il y a quelques personnes qui...
Donc, je vis avec un diabète maintenant. Alors, ça pose des questions, hein. Pourquoi on sort d'une maladie chronique ? Parce que le principe d'une maladie chronique, c'est que c'est inguérissable. C'est difficile d'en parler par rapport à l'endométriose, puisque la ménopause fait la fin de la maladie, officiellement. Mais bon, voilà. En tout cas, je dis adieu à l'une et paf, je tombe dans une autre.
Et qu'est-ce que ça a fait au quotidien, le diabète ?
Alors, ça, franchement, c'est une galère. C'est une galère. Parce que c'est une maladie silencieuse, qui ne fait pas mal, qui ne gêne pas au début. Et pour équilibrer Son diabète, c'est au quotidien. Une prise de tête. Et grosso modo, si on veut équilibrer son diabète, là je sais que les toubibs ne seraient pas d'accord avec ce que je raconte, mais tant pis. Eh bien, il faut s'affamer, quoi. En gros, on a droit à rien, ce qui n'est pas vrai. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, c'est ça qui se passe. Alors, se picouser tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc là, maintenant, il y a les espèces de patchs, là, qui permettent de faire des prises de glycémie beaucoup plus simples. Et pour moi, en tout cas, le problème, c'est de comprendre comment ça fonctionne.
Quand vous avez été malade de l'endométriose, finalement, les médecins vous ont très peu expliqué ce qui se passait. Ils ont été très peu transparents. Est-ce que c'est mieux maintenant ? Est-ce que vous diriez que vous avez un bon suivi médical ?
Non.
Pourquoi ?
Mamma mia, moi j'espère que les endocrinos, ils n'écoutent pas France Culture. Les spécialistes en diabétologie, donc les endocrinologues, sont quasiment toutes des femmes. Et elles sont toutes starbées. C'est la difficulté de trouver quelqu'un. Là, j'en ai une en ce moment qui est très gentille, qui est très sympathique. Elle est très, 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 très irrégulière. Alors, une fois, je la vois, tout va bien, elle est contente, elle est là, elle me félicite. La fois d'après, c'est à peine si elle me connaît. Alors, un quart d'heure, le rendez-vous. Bon, ben alors, la prochaine fois qu'on se voit, c'est dans 6 mois. Attendez, vous appelez ça un suivi médical, vous autres ? Moi, je n'appelle pas ça un suivi médical. Quand on a un diabète, à la limite, c'est tous les jours qu'on doit être aidé et suivi. Tous les jours, pour savoir comment il faut manger, comment on ne doit pas manger. Tiens, là, j'ai mangé ça, j'ai fait... Parce qu'on nous dit tout le temps, mais vous avez le droit de faire des écarts, etc. Bon, j'ai fait un écart, comment je le régule, etc. Quoi. Parce qu'après, au cours de la consultation, elle nous dit des tas de choses qui fabriquent des questions, mais les questions, on n'a pas le temps de les poser parce que c'est la fin. Et moi, chaque fois que je ressors, je suis encore plus paumée qu'en entrant.
Il y a aussi la dimension visible ou invisible, en fait, de la maladie, qui change les choses et la place qu'on lui donne dans notre existence, à quel point on en parle, à quel point on fait comme si ça n'existait pas. Donc, il y a un dialogue où il y a un marchandage. Moi, j'ai l'impression d'être toujours un peu en train de marchander le droit d'en faire un peu plus que ce qu'il faudrait ou le droit d'aller au-delà des limites qui seraient raisonnables ou des éléments de ce type. Parce qu'on s'est construit, en particulier dans notre culture, sur l'autonomie, le contrôle, la maîtrise de soi... Sur l'idée de la santé aussi, enfin, en tout cas pour nos générations. Ça faisait partie de la promesse de la technique hein, et de la science, qu'on allait vivre plus longtemps, meilleure santé. Donc toutes ces représentations-là, elles sont mises à mal assez violemment par l'expérience de la maladie. Donc il y a quelque chose de l'ordre un peu de l'effondrement d'une croyance très contemporaine en une qualité de vie, et en particulier de vie au sens physiologique. Croyance dont on voit bien à quel point elle est en train de s'effondrer aujourd'hui, quand on se rend compte de ce qu'on respire, ce qu'on mange, des endroits dans lesquels on habite, plus rien ne paraît pouvoir être encore qualifié de sain.
La vie serait ainsi faite, de suite, de succession, de choses qui vont et viennent, d'incertitudes et de points d'interrogation, de cycles, de vagues qui emportent tout jusqu'au moindre souvenir, d'émotions impalpables, de temps qui s'égrènent, minutes qui nous échappent, être toute petite dans un monde si vaste. La mort approche, elle est là, toute proche. Le corps est chose fragile, depuis toujours, au point de ne pas avoir envie d'en prendre soin, au point de le laisser à l'abandon pour le réparer plus tard, autrement, pour mieux l'écouter. La vie tient à un fil. Nos vies tiennent à pas grand-chose. Tout devient sensible, équilibre inexistant. Un état qui prédit le beau, le laid et la peur. Un état qui, malgré tout, donne de l'élan. Regarder au-delà de la ligne, braver les étapes,
tenir debout. Fatou S. Fragment.
Moi, quand j'ai eu le diagnostic, j'étais là, c'est affreux, il faut absolument que je m'en débarrasse. Du coup, je suis allée très vite sur ce qu'il faut mettre en place. Et je crois que, en fait, c'est pas comme ça. Ça va pas, ça peut pas aller aussi vite. Ma tête peut décider que ça se finit bientôt. Le corps, il a aussi son rythme. Moi, j'emploie pas du tout. Je combats la maladie ou je suis dans une lutte tous les jours. Moi, je suis plutôt dans une lutte face à au système qui invisibilise les personnes comme moi. Je suis pas en lutte contre moi-même et ce qui se passe dans mon corps. Comme j'ai un corps qui fait mal depuis très longtemps, j'avais déjà quand même cerné que le corps pouvait être aussi un empêchement. Donc j'avais déjà un regard sur le monde des non-valides, on va dire. Mais ça, du coup, ça a ouvert encore plus ce truc-là de... J'ai pas de mal, je l'avais pas trop non plus, mais j'ai pas de mal à accueillir la parole d'une personne qui vit des choses sombres. Ça me fait pas peur, parce que je pense que c'est très important de parler des choses sombres, que ça devrait... faudrait dédramatiser, parce qu'en fait, c'est juste la vie. Et que je pense, en tous les cas, moi, ce qui m'a rendue malheureuse à des moments, c'est la silenciation de mon état. Plus que mon état en lui-même, quoi.
Il fallait vivre. Il a fallu que je traverse comme ça, dans une forme d'aveuglement. Je sais pas sinon comment j'aurais pu réagir. Je sais pas. La différence, par exemple, entre la maladie que je vis aujourd'hui et celle d'avant, c'est que celle d'aujourd'hui, il y a quasiment 90% des réponses qui m'appartiennent. Ça dépend de moi, de comment je m'alimente, comment je fais attention, quel suivi je fais, quelle forme d'écoute de moi-même je m'accorde. Et par exemple, tiens, j'ai envie de parler de mon ami Antoine. C'est très important. C'est quelqu'un qui m'a imposé de partager mon diabète avec lui. Et finalement, on fait souvent beaucoup de choses ensemble, on fait beaucoup d'activités, etc. quoi. Et c'est lui qui me met en alerte, qui me dit « Agnès, tu as vu l'heure, ça va être l'heure de manger. » Et ça, il le fait un quart d'heure avant la crise d'hypo. Parce que moi, sinon, je me laisse aller jusqu'à la crise d'hypo. Voilà. Et puis d'un seul coup, c'est urgent. Ah, vite, 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 il faut que je mange, il faut que je mange. Non, quand je dis hypo, en fait, c'est la crise d'hypoglycémie. Donc ça veut dire au moment où il n'y a plus assez de sucre dans le sang. Et à ce moment-là, ce n'est pas dangereux en tant que tel, mais c'est extrêmement désagréable. Donc ce que je raconte en parlant de ça, d'abord, c'est que du coup, il a imprimé ça chez d'autres amis qui tiennent compte de mon diabète. C'est important que les amis le vivent avec vous. C'est l'amitié qui fait la différence.
En gros, en fait, moi, des fois même, je dis que je suis malade. C'est pas, je me réveille, ouais, je suis malade, je dors, je suis malade. C'est ennuyant, quoi. En vrai, vis ta vie, et voilà. Hein. Dans tous les cas, on va tous mourir, en vrai de vrai. Donc, c'est pas un frein, la maladie. C'est pesant, mais c'est pas un frein.
Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard?
Moi, je vais devenir infirmière. Parce que je peux comprendre les enfants. Je suis malade, ils sont malades, et on se voit se comprendre. Et surtout, aider les autres. Comme moi, on m'a aidé. Les accompagner, même psychologiquement parlant, des fois c'est lourd. Hein.
Vous, qu'est-ce qui vous a aidé?
Franchement, à l'hôpital, ils m'ont vraiment aidé. Par exemple, c'est grâce à mon docteur que je suis partie au centre thérapeutique ou la psychologue. Franchement, tout le monde m'a aidé. Hein. Par exemple, la psychologue, elle m'a aidé avec l'école, elle m'a aidé à dialoguer avec les personnes qui ont de la pitié avec moi, par exemple, à leur montrer que, en fait, stop. Faut arrêter de voir ça, en fait, parce qu'eux, ils aiment trop voir la personne malade et tout. D'un côté, je me dis, ils me connaissent pas réellement dans ces cas-là. Ils jugent que la maladie et pas ma personne. C'est ça qui est chiant. Et ça m'a appris à parler, tout ça m'a appris. Je suis déterminée, mais malgré que j'ai mes rendez-vous, malgré que je suis fatiguée, c'est pas un frein pour moi. Franchement, j'ai envie d'avancer et j'ai envie d'avoir cette sensation de fierté en moi, en vrai. Je me dis, ah ouais, t'es malade, mais la petite, elle arrive, hein, en fait. Je me dis ça, en fait.
Merci à Agnès, Mélanie, Adja Traoré, Claire Marin, Laurent Chiche, Andrea Alkiviadis et toutes les participantes de l'atelier d'éducation thérapeutique de l'Hôpital Européen de Marseille. Merci aussi à Cathy Aristil de l'Hôpital Robert Debré. Prise de son, Jeffrey Marianne et Manon Houssin. Documentation, Alice Signoret et Antoine Vuillose. Mixage, Pierre-Henri. Chargé de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Maladie chronique, ce qui nous traverse. Premier épisode, Être malade. Un documentaire d'Alice Le Filleul, réalisé par Julie Béressy. Boys and girls, listen again. This is for grown-looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see. As cute as can be, up in the club with fake ID. Careful, for you meet a man with HIV. You can host a TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful, some men be rapists. So act your age, don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys. You can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking weed and ice. You don't wanna be my age and can't read and write. Begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. I know I can, I know I can be what I wanna be. Be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. I'll be where I wanna now, be. Go. We came to this country. We were kings and queens, never porch monkeys. There was empires in Africa called Kush, Timbuktu, where every race came to get books to learn from black teachers who taught Greeks and Romans, Asian Arabs, and gave them gold. When gold was converted to money, it all changed. Money then became empowerment for Europeans. The Persian military invaded. They heard about the gold, the teachings, and everything sacred. Africa was almost robbed naked. Slavery was money, so they began making slave ships. Egypt was the place that Alexander the Great went. He was in shock that the mountains were black.
Vous êtes bien sur France Culture.
Des outils pour comprendre le monde. Géopolitique, histoire d'une science.
Xavier Mauduit.
De la pensée de Montesquieu, philosophe précurseur, à son utilisation par l'Allemagne nazie, qu'est-ce que la géopolitique? Avec les stratégies de la guerre froide et l'année 1989, quand la géopolitique se trouve au pied du mur, mais aussi pour une géopolitique de l'espace, un peu plus près des étoiles.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. La chercheuse en sciences cognitives, Barbara Tillman, nous fait découvrir comment le cerveau traite la musique et comment la musique permet de stimuler le cerveau.
Lorsque vous entendez une musique, cela peut évoquer un sentiment de familiarité grâce à ces nombreuses musiques stockées en mémoire.
Votre cerveau, saison 10, Les pouvoirs de la musique. Réalisation Charlotte Roux, à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture, tout de suite, les nuits de France Culture.